Orient Hebdo, Mathias Golchani, Éric Bataillon.
Raqqa, nid d'espions, est un roman qui se déroule début 2014 dans l'ancienne et première capitale de l'État islamique. La ville, principalement dirigée par celui qui planifiera les attentats du 15 novembre 2015 à Paris, est assaillie par la rébellion syrienne et Daesh vit alors dans la paranoïa d'un complot. C'est dans cette atmosphère qu'enquête le policier kurde Merwan Millet, qui joue les agents doubles au péril de sa vie. Un récit écrit par notre invité Yannick Laude et édité chez Alma Michel, que vous pourrez réécouter sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Yannick Laude.
Bonjour Éric Bataillon.
Nous sommes en ligne en duplex avec vous depuis le Parlement européen à Bruxelles, où vous êtes conseiller en communication. Yannick Laude, nous vous avions reçu en 2019 lors de la sortie de votre premier roman, Meurtre à Raqqa. Votre second ouvrage, Raqqa, nid d'espions, est-il une suite ?
Alors, les deux peuvent se lire indépendamment, mais c'est effectivement une suite dans la mesure où d'abord le cadre est globalement le même, même si là je sors de Raqqa, dans la mesure ensuite où les personnages sont pour l'essentiel les mêmes, les personnages historiques malheureusement, mais aussi les personnages fictifs que j'ai inventés pour tisser l'histoire.
Il s'agit donc d'un thriller, comme le premier livre, thriller qui met en scène Merwan Millet, votre héros, un flic kurde, communiste désabusé. Nous sommes début janvier 2014, l'organisation État islamique a pris partiellement le contrôle de Raqqa et l'administre. Merwan Millet a été désigné responsable du bureau de l'ordre public, la police en quelque sorte. Est-il pour autant devenu un cadre de Daesh ?
Alors, bon, d'abord, en janvier 2014, contrairement à l'épisode précédent, là, Raqqa est totalement dominé par Daesh. Raqqa a fait le nettoyage pendant l'été de toutes les autres factions, même les factions islamistes, et donc ils sont totalement au pouvoir. Non, Merwan Millet est toujours dans ce rôle compliqué pour lui. Il a effectivement un passé, mais c'est quelqu'un qui ne croit plus du tout en la politique ni en quoi que ce soit, mais donc il a une femme qui a beaucoup milité et qui espère toujours la démocratie syrienne, une famille, et il doit bien vivre dans cette situation. Par le hasard de sa parentèle, par son beau-frère, il a pu rester en poste, puisqu'il était déjà flic dans l'ancien régime, et il devient effectivement chef de la police municipale dans le cadre d'une organisation sécuritaire très complète qu'a monté Daesh. Et la police municipale, effectivement, n'est pas la première force la plus importante et la plus dangereuse de ce système sécuritaire. Il joue donc un double jeu qui va lui poser évidemment beaucoup de problèmes, notamment à l'occasion de la rencontre avec une espionne française qui vient sur le terrain vérifier quel est le potentiel exact de Daesh, puisque à l'époque, si vous vous souvenez bien, on ne jurait que par Al-Qaïda, mais bon, Daesh, dans les milieux occidentaux, personne ne s'en méfiait vraiment. On a commencé à prendre conscience du phénomène 6 mois plus tard, avec la prise de Mossoul dans l'Irak voisin.
Alors, en ce début 2014, l'Emniyat de Raqqa est structuré comme un appareil sécuritaire, avec la police, les renseignements intérieurs, le contre-espionnage, les opérations extérieures, la police religieuse. Quel est le degré d'entente entre les chefs de ces différents appareils ?
Alors, le degré d'entente est variable. Je ne suis même pas tout à fait capable de vous le dire exactement, parce que, soyons clairs, je ne suis pas un spécialiste de Daesh. J'ai beaucoup lu, évidemment, je me suis beaucoup documenté sur cet appareil, sur le fonctionnement de l'organisation État islamique. Mais les noms même de tous les responsables ne sont pas connus. Le plus connu étant le principal chef de l'Emniyat, qui est Mohamed Al-Nani. C'est lui qui a planifié, d'ailleurs, plus tard, les attentats contre le Stade de France et le Bataclan. Par contre, Abou Lukman, que je place au renseignement militaire, bon, lui, il est avéré. Celui que je place dans le contre-espionnage, qui est le beau-frère Mahmoud Al-Khalif, que je place comme étant chef du contre-espionnage, lui est un personnage qui a existé, mais savoir s'il avait cette fonction à ce moment-là, je dois dire que je n'en sais rien. Ce qui est sûr, par contre, c'est que l'Emniyat et la police religieuse étaient en opposition, puisque la police religieuse n'a pas été inclue. La Hizba, donc, n'a pas été inclue dans l'Emniyat. Elle avait un statut à part, elle rendait compte à part à Al-Baghdadi, donc au chef de l'État islamique. À partir de là, j'ai pu imaginer, comme dans toute organisation politique, je travaille en politique, donc je sais ce que c'est, les rivalités qui peuvent exister entre deux appareils, surtout pour un État où la religion, évidemment, est essentielle, entre la sécurité et la police religieuse. Donc j'ai joué pour une partie de l'intrigue, effectivement, sur cette opposition.
Oui, Yannick Claude, on voit que dans les premiers mois de la conquête de Raqqa, les autorités daéchiennes, comme vous les nommez, sont plus préoccupées par les adversaires de l'intérieur, les autres factions islamistes, que par les diverses populations de la ville. Finalement, les populations de Raqqa, les autorités daéchiennes s'en préoccupent assez peu, finalement.
Déjà, ils les ont beaucoup laissés fuir. Là, entre l'été précédent et là, le mois de janvier, il y a des dizaines et même des dizaines de milliers de personnes qui sont parties et qui ont été remplacées par d'autres. Soit d'ailleurs des réfugiés qui venaient d'autres endroits, soit des djihadistes étrangers, des familles. Enfin, il y a quand même eu un afflux considérable de populations étrangères, un peu syriennes, mais surtout du Golfe, d'autres pays arabes et européennes qui sont venus s'installer au fur et à mesure. Enfin, c'est une histoire bien connue, qui sont venus s'installer au fur et à mesure à Raqqa et ont remplacé pas mal de Raqqaouis de souche. Je vous rappelle quand même que là, en janvier 2014, la pression migratoire, la fuite des Syriens avait quand même largement commencé.
Néanmoins, l'un des médecins-chefs de l'hôpital, par exemple, est un chrétien.
Alors, tout à fait. Ça, effectivement, moi, j'étais surpris, j'ai trouvé ça dans la presse libanaise, parce que à Mossoul, ça n'a pas été le cas plus tard. Il n'y a pas eu de tentative, en fait, d'appliquer la charia, telle qu'elle est d'ailleurs prévue, c'est-à-dire un statut de dhimmi pour les chrétiens. Il n'y a pas eu cette tentative à Mossoul plus tard, mais ils ont essayé de le faire à Raqqa. C'est-à-dire que, comme ils ont pris le pouvoir petit à petit à Raqqa, ça a été quand même une négociation avec la population. Les représentants de l'armée syrienne libre à Raqqa, qui étaient les brigades révolutionnaires de Raqqa, étaient sécularisés. Ce n'était pas du tout un mouvement religieux. D'ailleurs, on les a retrouvés plus tard comme force composante de ce qu'on a appelé les forces démocratiques syriennes, qui étaient essentiellement kurdes. Donc, c'était une ville qui n'était pas pour le régime syrien, mais qui n'était pas non plus pour les islamistes. Si bien qu'ils ont dû négocier pied à pied, mais bon, par la terreur, c'est toujours plus facile de négocier, c'est pour ça qu'ils se sont rendus maîtres de la situation à la fin. Mais ils ont dû quand même toujours négocier, et comme je l'explique, les chrétiens, mais c'était vrai là, c'est vrai ailleurs, sont quand même des minorités, mais des minorités qui ont quand même des relations avec toutes les autres communautés chrétiennes du Moyen-Orient, du Proche-Orient, et éventuellement, enfin pas éventuellement, mais aussi de l'Europe. Et donc ça peut être des bons relais pour toutes sortes de commerces, en fait, pour pouvoir alimenter la ville. Et comme le terrorisme islamique avait l'intention de faire de Raqqa sa capitale, il fallait que la capitale fonctionne bien, soit bien alimentée, n'ait pas de problème de pièces de rechange d'automobiles ou autres, et donc il fallait bien composer avec les chrétiens qui en général font partie de la bourgeoisie syrienne, d'affaires, du commerce, mais aussi intellectuels et universitaires.
Et qui, pour certains d'entre eux, ont été tolérés après la prise de Raqqa par l'État islamique.
Tout à fait. Donc il y a une grande partie qui a fui, mais il y en a qui sont restés. Et donc il y a eu un accord de dhimmitude qui a été conclu entre l'État islamique et les chrétiens de la ville. C'était février 2014, février ou mars. Il n'a pas tenu, parce que on sait plus tard que en 2015-2016, il y avait des persécutions très fortes contre les chrétiens et donc une fuite définitive. Mais à ce moment-là, c'est effectivement, ça a été un élément de l'histoire assez chaotique de l'État islamique à Raqqa.
Au fil du récit, on rencontre de nombreux personnages et parfois on s'y perd un peu car ils s'appellent presque tous Abou quelque chose. Évidemment, ce sont des pseudonymes. Pourquoi se faire appeler ainsi ?
C'est ce qu'on appelle une kunya, c'est-à-dire c'est un nom que se donnent les djihadistes. C'est en référence tout bêtement à Muhammad le prophète qui se faisait lui-même appeler Abou Qassim. C'est-à-dire Abou, ça veut dire père. Oum, c'est pour la mère. Abou, c'est pour le père. Bon, Abou Qassim, c'est le père de Qassim. C'était un de ses enfants qui était mort en bas âge et donc qui chérissait le nom et qu'il avait pris ce pseudonyme. Je sais que c'est compliqué, mais c'est pour ça que je donne d'ailleurs des surnoms à ces personnages et je mets un lexique aussi dans le livre qui permet de s'y repérer. Donc c'était au début, c'est une tradition prophétique et c'est devenu en fait un nom de guerre pour les djihadistes. Au point que ça devenait des fois un peu... On avait des Al-Parisi pour des Parisiens, Al-Belgiki pour des Belges. La kunya ne désignait plus seulement un enfant, parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui n'avaient pas d'enfants, mais ils étaient de tel endroit, quoi.
Al-Maghribi ou Al-Hollandi, ce sont d'autres personnages de votre roman.
Alors oui, mais celui-là, Abou Obeida Al-Maghribi, a vraiment existé. C'est effectivement un élément important, ce gars-là. On sait que ça a été un espion. Ça n'a pas été facile de terminer les diverses sources. Il y en a qui disent que c'était un espion britannique. Moi, j'en ai fait un espion de Al-Qaïda. En tout cas, il a joué un rôle assez trouble qui a permis effectivement que se fasse tuer finalement un des bras droits de l'époque d'Al-Baghdadi, qui était le Haji Bakar al-Iraqi. Bon, alors lui, c'est pas un Abou, c'est un Haji. Haji, c'est le pèlerin, quoi. Mais bon, Bakar, c'est le premier calife. Et al-Iraqi, ça désigne donc où il vient. Donc, c'était un ancien officier irakien du renseignement de Saddam Hussein. Et Abou al-Maghribi, Abou Mohamed al-Maghribi, a probablement été à l'origine de son élimination en plein conflit dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce conflit qui a opposé au début janvier 2014 Daesh à toutes les autres factions qui s'étaient unies contre elle parce que, pour des raisons stratégiques, ils avaient bien vu le danger monter. Cette coalition, d'ailleurs, va finalement perdre et c'est Daesh qui va s'étendre un peu partout en Syrie et plus tard en Irak.
Orient Hebdo sur RFI.
Orient Hebdo, nous sommes en ligne en duplex depuis Bruxelles avec Yannick Laude pour son second roman « Raqqa, nid d'espions » publié chez Albin Michel. Yannick Laude, ce titre fait référence à un film « Le Caire, nid d'espions ». Est-ce l'opposition que vous décrivez entre Daesh et Al-Qaïda, et dont nous venons de parler, qui a été propice à l'espionnage ?
De toute façon, ce qui a été propice à l'espionnage, c'est évidemment la situation générale, parce que donc pour les Occidentaux qui étaient déjà accaparés par la guerre en Syrie, c'est ce nouveau développement a alerté tout le monde. Mais bon, si j'ai pris ce titre, et c'est un peu aussi le sens du roman, c'est par humour noir, sans doute, mais c'est par humour, parce que j'essaye quand même de traiter le sujet le plus possible par l'humour, tout de même, hein, à travers le personnage principal, les actions et ce qui s'y passe, parce que c'est suffisamment dramatique pour pas prendre tout ça au premier degré, en tout cas dans un récit de fiction. Oui, c'était une terre d'espionnage considérable. Souvenez-vous de cette série, que j'ai trouvée excellente sur Canal+, qui s'appelait Le Bureau des Légendes, et il y a eu beaucoup de scènes d'espionnage et d'actions d'espionnage sur le terrain en Syrie. Hein.
Vous faites dire à Hadji Bakr, surnommé Barbe Rouge, Saddam et Bachar ont commis la même erreur, il ne peut y avoir de panarabisme sans que l'islam soit au cœur du projet. Et il ajoute, le Livre Saint est devenu le guide des aspirations populaires arabes avec la fin du communisme. Cette vision politique, Yannick Laude, est-elle au cœur des projets islamistes ?
Bien sûr, c'est au cœur des projets islamiques. Il ne faut quand même pas prendre les islamistes pour des imbéciles. Je veux dire, Hadji Bakr vient donc du Basse, à l'origine, les partis basses, syriens, irakiens ou d'autres pays arabes où ça a pu naître, étaient à l'origine national-socialiste. Hein. Bon, plutôt pan-arabique d'ailleurs, au départ pan-arabique-socialiste, plus tard nationaliste-socialiste. Et donc, ils avaient quelque part un projet qui était d'essence un peu marxiste. D'ailleurs, il y avait quand même beaucoup de Russes, de Russes soviétiques sur le terrain, comme conseillers économiques ou militaires. Donc ce projet-là a été évidemment à exploser avec l'invasion soviétique de l'Afghanistan, puisqu'on a compris que donc même les marxistes en fait pouvaient être des impérialistes comme les Américains et pouvaient s'en prendre à l'islam. Et ce raisonnement en fait de Hadji Bakr, il est écrit, hein, puisque après sa mort, le Spiegel avait retrouvé, c'était un grand scoop du Spiegel au début de l'année 2014, ils avaient retrouvé donc les carnets de Hadji Bakr chez lui où il expliquait bien toute cette théorie où il fallait mêler le Coran qui par certains aspects, à un côté social, quelque part. Hein. Alors évidemment, c'est pas très développé comme un code de sécurité sociale, mais enfin, il y a beaucoup de choses dans la religion musulmane qui ont trait au social, à l'aide aux plus pauvres, etc. Et donc ça peut servir de viatique socialiste, en quelque sorte, mais tout en s'appuyant sur les paroles prophétiques qui fédèrent le plus gros de la population dans un pays musulman. Hein.
Yannick Laude, il y a beaucoup de combattants étrangers à Raqqa et dans votre livre, notamment des Maghrébins dont certains sont venus d'Europe où ils sont nés. Il y a notamment un personnage, Kevin, de jeune djihadiste belge venu combattre en Syrie, mais qui finit lui par se détourner du djihad. Est-ce que ce profil de personnage était assez courant à Raqqa à cette période ?
Alors courant, franchement, je n'en sais rien. Moi, je l'ai fait pour les besoins du récit. Par contre, qu'il y ait eu des gens qui regrettaient leur action assez vite, oui, bien sûr, ça a existé et c'est assez normal. On peut très bien comprendre que des jeunes qui sont en quête de sens s'embarquent dans un truc. Enfin, on a vu ça aussi, vous savez, à l'époque de l'action directe ou de genre, quelque chose comme ça. On peut s'embarquer parce qu'on est exalté, parce que etc. Et puis se rendre compte très vite que c'est pas son destin, qu'on n'a pas envie de tuer les gens, que bon, on pensait pas que c'était ça. En plus, là, en l'occurrence, le Kevin en question a trouvé l'amour. d'amour en la personne de la fille de Merwan Millet. Donc ça l'a sans doute aidé aussi beaucoup à sortir de son projet meurtrier. Mais théoriquement, c'est quelque chose qu'il ne peut pas montrer, parce que l'apostasie, déjà, théoriquement, dans l'islam, ça mérite la mort. Enfin, sous Daesh, encore plus. Enfin, bien qu'il n'ait pas apostasié, pas du tout. Mais enfin, il s'est détaché. On apostasiait très vite sous Daesh. C'est quand même un système qui est terrible, parce que c'est vraiment un extrémisme, une lecture tellement littérale de textes qui sont quand même médiévaux. Hein. Je veux dire, à la même époque, nous aussi, on avait des moines soldats qui faisaient la même chose. Mais voilà, c'était à l'époque, et aujourd'hui, personne ne se revendique des moines soldats, parce que malheureusement, l'idéologie daschienne existe encore, et il y a des gens qui se revendiquent d'une application stricte de paroles soi-disant divines, de prophètes ou de hadithistes, de compagnons du prophète divers, qui a conduit à ça. Ben, voilà.
Dans votre récit, vous parlez également de Naïm. Naïm, c'est le fils de Merwan Millet. Il revient de l'école chaque jour plus daéchien que Daesh. Est-ce que la propagande islamiste a ciblé particulièrement les plus jeunes ?
Alors oui, tout à fait. Là, on n'est pas encore tout à fait dans la création de ce qu'on va appeler les lionceaux du califat. Mais c'était un grand projet. Il y a même eu des pépinières, un peu comme les nazis d'ailleurs avaient fait, hein, des pépinières d'enfants. Ils voulaient vraiment en faire des fanatiques. Et c'était des fanatiques. Il y a eu des choses assez abominables sur les entraînements d'enfants qui ont pu être apportées par la presse, par des documents et des reportages. Oui, la question scolaire, l'éducation des enfants était quand même un des axes prioritaires de l'idéologie daéchienne et de Daesh, puisqu'ils ont réussi à organiser quand même à la rentrée 2013-2014. Déjà, ils ont pu réorganiser l'école, y mettre des enfants pour les endoctriner. Et évidemment, des enfants, ça s'endoctrine très très facilement, malheureusement. Et c'était un projet délibéré. Non, c'était très pensé. Il ne faut pas croire que ça a l'air d'une bande de sauvages. Évidemment, c'est une bande de sauvages, mais ce n'est pas une bande de sauvages, enfin, pas plus sauvages que les nazis. C'était des gens très organisés, intelligents, qui ont un projet mortifère et qui se donnent tous les moyens politiques pour le réaliser.
Néanmoins, la plupart des protagonistes réels de votre roman, il y en a beaucoup, ont été tués, y compris d'ailleurs al-Baghdadi et al-Adnani, le cerveau des attentats de Paris. Mm-hmm. Mais Daesh n'a pas disparu. Pourquoi ? Selon vous,
hein. Selon moi, Daesh n'a pas disparu parce que l'idéologie existe toujours. Hein. C'est ça le grand problème auquel on assiste. Il y a ce que Gilles Kepel appelle un djihadisme d'atmosphère. Et ce djihadisme d'atmosphère, malheureusement, pour le dissiper, ça va mettre beaucoup de temps. Hein. C'est un des objets de la loi sur le séparatisme qui a été voté il n'y a pas longtemps, mais qui est longue à mettre en œuvre, puisqu'il s'agit tout de même d'arriver à bâtir un islam qui soit français. Il faut aussi vraiment combattre tout ce qui peut être appel au djihad ou tout bêtement à la haine de la société dans laquelle on vit. Ça a été très répandu. Bon, il y a tout un débat pour savoir si Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite est sérieux ou pas sérieux dans les réformes qu'il mène. Moi, j'ai tendance à le croire, vu la haine d'ailleurs qu'il crée chez ses frères ennemis, qui sont les frères musulmans, hein, qui sont furieux de tout ce qu'il essaye d'entamer comme réforme, y compris comme réforme théologique, puisque Mohamed Ben Salman veut expurger les universités saoudiennes, et notamment Médine, de l'enseignement d'une grande partie des hadithistes, hein, et notamment les deux principaux, qui sont Boukhari et Muslim. Parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez, c'est même plus le Coran qui fait le corpus idéologique de Daesh. C'est cette somme considérable de soi-disant faits et gestes et paroles du prophète, mais qui ont été écrits 200 ans après sa mort. Donc c'est tout et n'importe quoi. L'islam a une histoire politique évidente de tout temps, dès les tout premiers califes. Et d'ailleurs, c'est les tout premiers califes que ça s'est déjà séparé entre sunnites et chiites. C'est bien politique, ça. Hein. Et donc, si on pense que Mohamed Ben Salman est sur la bonne voie, et je pense qu'il fait des choses sérieusement, eh bien, avec le temps, cet enseignement va quand même disparaître. Parce que si l'Arabie Saoudite, où se trouvent les lieux saints de l'islam, devient un pays normal, qui applique une religion normale, eh bien, il n'y a pas de raison que, petit à petit, tout ce qui est extrémiste va s'éteindre. Ce qu'il faut, évidemment, entre-temps, il faut lutter, malheureusement, ce que fait la police à peu près tous les jours, contre tous ceux qui se laissent influencer par une propagande haineuse qui subsiste largement. Ils ont encore des influenceurs qui subsistent largement sur Internet et dans la réalité.
Merci Yannick Laude.
Merci Eric Bataillon, c'était un plaisir.
Conseiller en communication au Parlement européen à Bruxelles. Je remercie d'ailleurs au passage le support technique du Parlement européen. À lire votre roman Raqqa, Nid d'espion, c'est publié chez Albin Michel. Orient Hebdo, on se retrouve avec plaisir samedi prochain. Tout de suite, le journal.
L'atelier des médias.